Donc, dans Matthieu, on termine ce soir le chapitre 10. On va lire les versets 32 à 42. Et dans Matthieu 10, à partir du verset 24, on a commencé à considérer le caractère apostolique. Hein, le chapitre 10, ça a tout trait à la mission apostolique. On a vu ça précisément dans les versets 5 à 23. On a vu les apôtres, ensuite on a vu leur mission. Mais là, Jésus reste dans l'idée de la mission, mais il parle, c'est quoi le caractère de ceux qui ont cette mission? C'est quoi qui caractérise les ouvriers dans la mission de Jésus-Christ? On va commencer en lisant, puis ensuite je vais vous donner des remarques d'introduction qui vont nous aider à mettre tout ce passage-là ensemble. On commence au verset 32, OK? Je vais revenir sur les versets précédents, mais là, je veux juste qu'on se familiarise avec le texte qu'on considère ce soir. « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me charge... Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Donc, le caractère apostolique, on continue de considérer ça. Dans le message précédent, qui s'attardait sur les versets 24 à 31, on a vu ça la semaine dernière, on a vu les trois premiers traits de caractère. Et ces traits de caractère-là, des apôtres ou des envoyés, tu sais, apôtre, c'est le sens très limité, strict, les apôtres, les douze. Mais apôtre, ça veut dire envoyé. Et pour ça que nous, on peut dire aussi, nous sommes des envoyés. On est envoyés dans la mission de Jésus-Christ, dans la moisson. Et c'est des traits qui parlaient... de la peur qui vient avec cette mission, parce que Jésus a dit « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups ». C'est pas très rassurant pour une brebis d'aller parmi les loups. Donc, Jésus commence en parlant du caractère par rapport à la peur, de ne pas se laisser arrêter par la peur. Je vais vous rappeler, la semaine passée, à trois reprises, il dit « Ne craignez pas, ne les craignez pas ». Ok, donc, il veut contrer la peur qui est propre à être dans la mission de Jésus-Christ. C'est pas une mission pour... c'est pas du tourisme. On est dans une guerre spirituelle. Et donc, ça, c'est la semaine dernière. Cette semaine, il va parler de l'absence de la peur, le courage que va donner le caractère apostolique que ses envoyés ont. Et donc, si les trois premiers traits du caractère apostolique avaient rapport à contrer la peur, ben les quatre derniers qu'on va voir aujourd'hui ont rapport à fortifier la foi. OK? Donc, contrer la peur, puis là, ce soir, c'est fortifier la foi. La semaine passée, c'est l'aspect défensif. Je me défends contre ce qui me fait peur. Cette semaine, c'est l'aspect offensif, la victoire de la foi qui conquiert les obstacles par la foi. OK? Et Il est donc question ici, dans les versets qu'on a vus, je ne sais pas si vous voulez, dès en partant, ça dit « quiconque se déclarera publiquement pour moi ». Ici, vraiment, Jésus pense à toute la question de s'identifier à lui, ok? D'être, tu sais, dans la mission, on s'identifie à celui de qui on porte le message. Hein? Je porte un message de Jésus-Christ, je lui appartiens, c'est ce que je viens de vous apporter. Donc, Jésus-Christ fait allusion à ça dans ce qu'on a lu. Et dans ce sens-là, je veux juste faire un lien ici avec ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire que, en tant que disciple de Jésus-Christ, on le représente. Et si on le représente, c'est important qu'on entende ce qu'il nous dit. Regardez au verset 27. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Vous savez, j'ai rien à dire aux hommes tant que j'ai pas entendu Dieu me le dire. Bon, c'est vrai, si j'ai pas entendu l'Évangile puis je l'ai reçu, comment je peux le prêcher aux autres? Okay, on reçoit ceux qui prêchent l'Évangile, c'est ceux qui ont reçu l'Évangile, qui ont cru à l'Évangile. Mais même plus que ça, dans l'Église avec les enfants de Dieu puis dans le monde, comme on s'en va cette semaine, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu parce que c'est ça que je vais pouvoir dire aux autres. Okay? Parce que l'Évangile, c'est pas juste quelque chose que je vais dire, répéter toute la même affaire. Je peux l'adapter, puisque Dieu me parle, je peux le partager, OK? Et il y a un principe important ici, je pense que c'est A.W. Tozer qui, dans son commentaire, faisait remarquer ça. On n'a rien à dire aux hommes tant qu'on n'a pas entendu de la part de Dieu. Puis ce qu'on a à dire aux hommes, c'est ce que Dieu nous a dit. On fait juste répéter ce que Dieu nous a dit, n'est-ce pas vrai? Alors, on n'invente pas notre message, il nous vient de Dieu. Puis c'est important d'entendre toujours la voix du Seigneur dans notre marche quotidienne avec lui. Et donc, on voit qu'encore là, hein, c'est pas notre mission, c'est celle de Christ, et c'est pas notre message, c'est le sien. L'origine de notre message, ça vient du Seigneur. Ça, c'est important de l'entendre de sa part pour pouvoir le répéter par la suite. Et là, on va pouvoir le proclamer. Et quand on le proclame, on est des martyriaux, on est des témoins. On dit « Oh, martyr, ça fait peur ». Ben le mot qu'il utilisait à l'époque pour témoin, c'était « martyr ». Ça finit par vouloir dire l'ultime résultat d'être un martyr, c'est d'aller jusqu'à la mort. Mais le mot « témoin »,« martyr », c'est pas juste que « bon, je vais parler, je vais mourir ». Ça peut aller jusque-là, OK? Parce que c'est de là que, souvent, c'est venu de là, parce que dans les chrétiens dans les catacombes, tout, qui étaient amenés dans les colisées, puis qui mouraient de ça, c'était des témoins de Jésus-Christ, puis ils en mouraient. Donc, les martyriums de l'époque finissaient par en mourir, mais ça veut simplement dire être un témoin. Et on va parler de ça ce soir, être des témoins de Jésus-Christ, qu'on entend de le proclamer sans retenue. Pourquoi? Parce que, regardez le verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GM. » Pourquoi qu'on proclame, même si c'est en danger de vie, parce qu'on ne craint pas l'homme, on ne craint pas ceux qui peuvent faire mourir notre corps, mais on craint Dieu. On craint celui qui a le pouvoir sur l'âme éternelle. Et regardez le témoignage des témoins dans l'histoire, c'est carrément ça. Il était prêt à mourir. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il était nonchalant devant les hommes, mais il les craignait pas ultimement. Il savait que même s'il tuait leur corps, il pouvait pas tuer leur âme. Il craignait tellement Dieu qu'il était prêt à aller jusqu'à la mort. Il était prêt à aller jusqu'à l'ultime sacrifice. Et dans ces versets-là, les versets 27, 28, même jusqu'à 31, le Seigneur donne l'ordre de pas craindre. OK? Puis je l'ai dit, il répète à trois reprises. Pourquoi? De pas craindre. De ne pas craindre les hommes et les circonstances afin de craindre Dieu. Spurgeon a dit « La meilleure cure contre la crainte de l'homme, c'est la crainte de Dieu. » Quand on craint Dieu, on n'a rien d'autre à craindre. Parce que Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. Donc on va considérer ensemble maintenant ce qui nous donne le courage. Si la semaine passée, on a vu ce qui va nous empêcher d'avoir la crainte, on va voir ce qui va nous donner le courage positivement, ce qui va nourrir notre foi face aux circonstances que Dieu nous amène. Et je pense que je l'avais souligné, mais en gros, qu'est-ce qui donne la foi? C'est avoir les regards sur Jésus, c'est avoir une vision de Dieu tel qu'il est. Si je vois Dieu tel qu'il est sur son trône, souverain, tout-puissant, comme dirait le psaume, De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Si l'Éternel est ma lumière, mon salut, j'ai pas à avoir peur de rien. Parce que Dieu est plus grand que ce qui m'arrive. Dieu est plus grand que mes ennemis. Dieu est plus grand que mes peurs, que mes pensées, que mes doutes. Et donc, lorsqu'on le craint, lui, on n'a rien d'autre à avoir peur. C'est ça vraiment le caractère fondamental d'un envoyé de Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais qu'on regarde quatre témoignages, parce qu'on parle ce soir du témoignage, OK, qu'on rend de notre Seigneur devant ce monde. Donc, quatre témoignages du caractère apostolique. D'abord, dans les versets 32 à 33, on a la voix. Et là, j'ai deux points qui ont le mot voix. Et ce premier ici, c'est V-O-I-X. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis, quand c'est un X? Ça veut dire de quoi? C'est... V-O-I-X, c'est quoi? Oui, c'est la voix avec laquelle on parle et on fait entendre les mots qu'on a à dire. Versets 32 et 33, c'est pourquoi quiconque se déclarera, c'est ça l'idée de la voix, publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce premier témoignage du caractère apostolique a trait à l'utilisation de notre bouche, de notre voix, pour faire connaître, publier, proclamer celui qui nous a sauvés, celui qu'on connaît lorsqu'on est un enfant de Dieu. Et ici, c'est quand même assez c'est sérieux, parce que là, ça parle de si on renie, Dieu nous renie, mais si on le proclame, il n'y aura pas honte de nous devant le Père. Puis ici, l'idée, Dieu n'est pas comme, ah, si en tant que chrétien, j'ai renié Dieu, je ne vais plus aller au ciel, puis tout ça. L'idée, c'est, quand on est un enfant de Dieu, on le proclame, puis notre vie le proclame. Et c'est, comprenez-vous, c'est pas l'idée, ton salut dépend de si tu as parlé de Jésus ou non, puis si tu n'as pas parlé à quelqu'un de Jésus, tu ne vas plus aller au ciel, mais c'est quand que notre vie est un témoignage de Jésus-Christ, que, OK, c'est pas que c'est sans faille et parfait, des fois on aurait dû parler du Seigneur à quelqu'un, puis on ne l'a pas fait, mais quand dans notre vie, c'est la direction, le désir de notre vie de proclamer Christ, Christ n'aura pas honte de nous devant le Père. C'est ça l'idée. Mais si on n'en parle pas, ça montre l'évidence qu'on n'y appartient pas. Ça, c'est un des passages, par exemple, pour dire qu'un disciple secret de Jésus-Christ, ça ne se peut pas. OK, Joseph d'Arimathée était en secret, mais il n'a pas resté en secret longtemps. C'est-à-dire, les circonstances étant, avec toute la tension qu'il y avait, c'était stratégique de ne pas dire « Hey, je vais prendre le corps de Jésus et je vais l'enlever de la croix. » Il a gardé ça là, mais par la suite... Je veux dire, si c'est un vrai disciple de Jésus-Christ, ils se sont fait connaître. D'ailleurs, il y a des Écritures, il a bien fallu se faire connaître à quelque part. Là. Je veux dire, c'est pas resté si secret que ça. Ils savaient tout que c'était Joseph d'Arimathée, okay, puis même chose avec Nicodème. Et donc, il en est ainsi. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si Christ est dans mon cœur, par la foi, ça va ressortir à quelque part. Prenez un exemple. Quelqu'un se met à parler de faire complètement saugrenu, de « Ah, c'est donc une bonne personne. » Ah, il va bien gagner son ciel. C'est quoi notre réponse en tant que chrétien? Ça n'a pas de bon sens. Ben voyons, ben non, il n'y a pas de bonne personne, puis on ne peut pas gagner notre ciel. On ne peut pas garder ça pour nous quand on entend une affaire de même. N'est-ce pas? On va proclamer, non, il y a de salut en aucun autre. Là. Il n'y a pas de bonne personne qui gagne leur ciel. Comprenez-vous? Ça va sortir en maintenant quelque part. C'est dans notre cœur, on sait qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. On va dire... On va pas dire qu'on va chanter des bêtises au monde, mais je veux dire, il faut bien qu'on le dise parce que c'est ce qui remplit notre cœur, tu sais, c'est notre espérance, c'est notre foi. OK? Donc, tôt ou tard, ce qui est dans notre cœur va ressortir. Et ça va, on va finir par exprimer notre appartenance à Jésus-Christ. C'est ça ici l'idée de la voix. Notre voix va exprimer la réalité de notre appartenance. OK? Parce que si c'est un fait, ça va sortir. Si c'est pas un fait, ça va pas sortir. C'est vraiment ça ici, l'idée de ce que Jésus dit. Puis je vous le résume à une autre citation de Spurgeon. Il dit, « Ce que le Seigneur est pour nous sur la terre, c'est ce que vous serez pour le Seigneur au ciel. Si les chairs est précieux pour vous, c'est ce que vous allez être pour lui. » Si vous avez eu pour lui la plus haute estime, il l'aura aussi pour vous. Et oui, c'est ça ici l'idée. Le ciel, la terre, il y a là un lien entre les deux. Ça m'amène à soulever le point suivant par rapport à ces deux versets-là, puis leur enseignement, c'est que la question ici sous-jacente, okay? la question que ça soulève, ce qu'on regarde, c'est comment est ma foi, comment est mon amour pour le Seigneur? Parce que ici, quand je me déclare par la foi, je dis, mais aussi c'est mon amour pour Dieu. Je veux dire, comme Pierre a dit, « Hurions-nous? » Tu as les paroles de la vie éternelle, il était attaché, il l'aimait. Je veux dire, il n'avait pas par la foi, il disait ça, mais aussi parce que c'était la personne la plus importante de sa vie. Et ça amène, parce que c'est, ça, c'est notre santé spirituelle, OK? Ce qui sort de ma bouche, ma voix, ça montre l'état de mon cœur, de ma santé spirituelle. C'est pour ça que Paul, vous remarquerez, puis une des ceux que j'aime le plus, c'est dans Thessaloniciens 1:3, où est-ce que Paul souvent parlait, « Ah, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Dans Thessaloniciens, il dit « Et de l'espérance que vous avez. » OK? La foi puis l'amour. Paul, quand il se demandait comment ça allait à l'Église, il demandait cette question-là. Comment va leur foi à Éphèse? Comment va leur foi à Colosse? Ah, puis leur amour pour le Seigneur, pour tous les saints, comment ça va? Ça donne ton état spirituel, ça donne comment ça va dans ta vie. Puis la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On se nourrit des paroles de la foi avec la parole de Dieu. Donc, il y a un lien direct entre la foi et la vérité. Si je veux avoir une foi ferme, une foi forte, je dois me nourrir de la parole. OK? C'est quoi le secret pour l'amour? Mercredi, on a vu ça, mercredi soir. Jésus, quand il a montré à ses disciples, il a mis le comble à son amour, ça nous dit dans Jean 13, comment ils l'ont démontré par un acte d'humilité incroyable. Lui, le maître, dans une culture où est-ce que c'était impensable qu'un rabbin, quelqu'un d'élevé, que les gens s'assoient à ses pieds, que lui enlève son il n'était pas tout nu, là, mais il a enlevé son vêtement extérieur, qui lui donnait sa stature. Il a enlevé ça, il s'est agenouillé, puis il leur a lavé les pieds. Il s'est vraiment rabaissé devant eux autres pour les servir. C'est comme il a démontré son amour comme ça, par l'humilité. Donc, il y a un lien, si on veut grandir dans la foi, c'est avec la vérité, mais pour l'amour, c'est l'humilité. Et les deux sont essentiels. Vous avez sûrement déjà entendu ça. C'est les deux grands piliers de la vie chrétienne, l'amour et la vérité. Mais l'amour a une préséance. Parce que la Bible dit, sans l'amour, même si j'aurais toute la foi pour transporter les montagnes, même que si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. C'est-à-dire, l'amour, c'est ce qui va donner l'efficacité à la vérité, à ma foi dans ma vie. Et là-dessus, je veux nous piler un peu ses orteils. Force est de constater que dans nos milieux, dans nos familles, n'est-ce pas vrai qu'on était faible dans l'amour? Pas sûr qu'on était si fort dans la foi, mais en tout cas, on était faible. Dans l'amour, savez-vous ce que ça veut dire? On est orgueilleux. Ça veut dire qu'on est orgueilleux, on n'a pas l'humilité qui permet à l'amour de Christ de s'exprimer. Et mes amis, la foi ne pourra jamais compenser un manque d'humilité. Quand même que j'aurai la foi pour compenser, pour bouger les montagnes, si je n'ai pas l'humilité qui va me donner... Ça ne sert à rien. C'est ça un Corinthiens 13 de message. On n'impressionne pas Dieu avec des grands exploits de la foi si on n'a pas d'amour. Ben, l'inverse est aussi vrai, je veux dire, quand même que je dirais plein de choses au nom de l'amour. C'est pas selon la vérité, c'est pas de la vraie amour. Bon, mais je veux mettre l'accent sur un côté ce soir, parce que je pense que c'est notre faiblesse. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de milieu ici. Comme dirait Jésus dans Matthieu 6, puis comme notre cher Kevin fait des jokes avec, on ne peut pas avoir deux maîtres. Ça va être rendu un running gag à cette heure, mais en tout cas. Mais c'est tout ou rien. C'est-à-dire, c'est ça. Genre l'affaire comme prophète, tempérament de prophète. Tu sais, puis je vous ai partagé tantôt 1 Pierre 7 à 11. Hein? Est-ce que ça dit que la fin de toute chose est proche, on est proche, on a vaqué à la prière, etc. J'ai ça, vaqué à la prière. Et avant tout, la primauté. Avoir un amour pas froid, pas tiède, ardent. les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Si on n'a pas l'amour, là, on va tous se tirer les cheveux puis se... Je dire, on a besoin d'amour les uns les autres parce qu'on pêche les uns contre les autres. On se fait du mal les uns les autres. C'est pas. Puis pensez, quand on garde quelque chose contre quelqu'un qui nous a blessés, c'est parce qu'on manque d'amour, on est orgueilleux, puis on colle sur notre poing, on n'a pas l'humilité de dire, OK, ça m'a fait mal, mais je vais passer par-dessus parce que je ne suis pas si important au bout du compte. Parce qu'on va dire, ah, tu m'as fait du mal à moi! N'est-ce pas de l'orgueil quand on dit ça? OK? Donc. L'amour est tellement important. Et c'est quoi? Notre voix dans le monde. La voix du témoignage de Christ. On a beau dire, tu sais, vous avez déjà entendu, les gens se soucient peu de ce qu'on dit tant qu'ils ne savent pas qu'on se soucie d'eux. On a beau dire, ben, des affaires, toute la parole, puis dire, le Jésus sauve. Mais s'ils ne voient pas que c'est parce qu'on se soucie d'eux autres, parce qu'on les aime, qu'on leur dit ça, pff, notre message ne va pas très loin. L'amour, mes amis, la voix du témoignage d'un enfant de Dieu, c'est plus que juste dire un message. C'est transmettre le cœur de Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique. C'est ça la voix d'un témoin de Jésus-Christ. Et mes amis, ce serait le fun si tout le monde acceptait le message. Tout le monde disait, ah, quel amour merveilleux. Puis ça, mais non, c'est pas comme ça. Puis Jésus, ici, nous le montre. On voit, puis là, je vais vous définir le mot, mais non seulement il y a la voix du caractère apostolique, mais la véhémence. Ah, oh, là, je n'ai perdu au moins 3, 4. Sais-tu véhémence, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas encore appris ça en secondaire 2. Ah, oh, qu'est-ce qu'il enseigne à l'école maintenant? 3! Excuse-moi, je ne voulais pas t'insulter. Ben oui, tu as 15 ans. Excuse-moi. Merci d'avoir défendu ton grand frère. Il n'y a pas besoin d'être défendu, mais tu as bien fait de le dire. Véhémence, ça veut dire la force impétueuse des sentiments ou l'in... Tu sais, c'est quand la véhémence, là, quand on parle avec véhémence, c'est la passion, puis c'est la force, c'est impétueux, là, OK? Mais regardez les versets qu'on va lire, puis pensez à la situation actuelle. « Ne crois pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a toutes sortes de passions hein, qu'on voit en ce moment. Des fois, déjà dans le temps, moi je suis dans ma famille, il ne faut pas parler politique. Mais là, il ne faut pas parler politique, de mesures sanitaires, de. En tout cas, il y a bien d'affaires qu'il ne faut pas parler. D'élections américaines, OK? Mais c'est quoi, comme chrétien, là, l'affaire qui devrait être que dire, on ne devrait pas parler parce que c'est Jésus-Christ, parce que c'est ça qu'il dit à cause de moi. OK? Pour ça, je disais tantôt, je veux dire, même si on n'est pas d'accord politiquement, je veux dire, c'est quoi ça va changer dans l'éternité? Si les gens nous rejettent et il y a des divisions, ça devrait être à cause qu'on parle de Jésus-Christ. Pas parce qu'on les insulte puis qu'on est, on est irrespectueux puis qu'on est cabochon, là. Mais parce que dans l'amour de Christ, on a la voix qui parle de Christ. Puis à cause que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, ils nous rejettent. C'est pas ce qu'on souhaite, mais il faut s'y attendre. Si on est fidèle au message, si on est fidèle à celui qu'on représente, il faut s'attendre à ça. Donc c'est ça, ici, la véhémence... Et pas de la part de ceux qui parlent pour parler de Jésus-Christ. C'est la réponse quand on parle. La réponse est impétueuse. Il y a des sentiments qui s'expriment. Dire, oh non, je ne veux pas de ça. Et donc, la cause, c'est Jésus-Christ. C'est l'Évangile qui donne cette réponse-là. Donc, pour un envoyé, un apôtre de Jésus-Christ, le résultat d'être dans sa mission, le résultat de faire connaître celui qui nous a sauvés, ça cause la division. N'est-ce pas vrai? Puis, si on ne compromet pas le message, ça va donner ça. Qu'est-ce qu'on voit dans certains milieux qui se disent chrétiens? Des fois, ils veulent tellement diluer le message, ils ne veulent plus avoir de division, pour plus qu'il y ait... Mais ils perdent le tranchant de l'Évangile. L'Évangile ne veut plus rien dire. Ah, oh, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est correct, tout le monde est sauvé. C'est pas ça que ça dit. Là. Si je dis... que le chemin est étroit, la porte est étroite, le chemin est resserré, puis que Jésus, c'est le seul, tu sais, qu'il y a, non seulement je dis que nul ne vient au Père que par lui, qui est le chemin, la vérité, la vie, Mais en plus que la colère de Dieu demeure sur ceux qui le rejettent, je ne vais pas me faire des amis nécessairement. Mais je vais être fidèle en tant que témoin de Jésus-Christ. OK? Je vais vous partager quelque chose à ce sujet-là. C'est assez intéressant parce que ça nous amène à un contraste. Je vous dis, on apprend des choses quand on s'arrête et qu'on étudie des choses dans la parole de Dieu. Vous allez voir, ça peut paraître anodin, mais je vais vous faire remarquer quelque chose dans 1 Jean chapitre 3. Gardez votre place ici dans Matthieu. Là. Mais dans 1 Jean chapitre 3, c'est une expression que je vais vous faire remarquer, puis je vais vous l'expliquer. J'aurais pu prendre bien d'autres places, mais c'est parce que dans mes lectures personnelles, j'ai lu ça, puis j'ai choisi ce passage-là, mais ce n'est pas le seul endroit où est-ce que cette expression-là. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Remarquez, ça dit « nous savons ». Nous savons. Quand on regarde cette expression-là à travers le Nouveau Testament, « nous savons », savez-vous que c'est une expression favorite de Jean? Vous avez dit qu'on apprenait des affaires avec une concordance. Puis, pas juste pour Jean, mais dans le Nouveau Testament, quand on voit cette expression-là, ça l'exprime presque toujours le contraste, la différence entre les incrédules et les croyants. Saviez-vous ça? Parce que, par exemple, dans les évangiles, puis beaucoup dans l'évangile de Jean, des fois dans la bouche des ennemis de Jésus-Christ, dit « Nous savons que cet homme est un imposteur. Nous savons que c'est... » Il était certain, mais dans le fond, il était bien dans le champ, mais ça les peinturait dans un coin. Ils se campaient dans leur rejet. Puis, d'une façon positive, les disciples, puis dans les écrits des disciples, puis dans ce qu'ils disent, « Nous savons, et des fois, il parle à Jésus, nous savons que tu es envoyé de Dieu. » Puis ici, dans 1 Jean, quand il dit « Nous savons », OK, ça campe les gens. Quand on dit ça, « Nous savons », ça met dans un camp soit les ennemis de Dieu, les incrédules, ou ceux qui sont ses disciples, qui ont la foi en lui. Et c'est une expression favorite de Jean. Il l'a dans l'Évangile de Jean, puis dans 1 Jean beaucoup. Ici, quand Paul il explique « nous savons », ok, puis il parle de l'espérance du retour de Jésus-Christ, il parle de l'assurance chrétienne que, puis tu sais, d'ailleurs, vous savez, une chose qu'on voit dans 1 Jean, c'est-à-dire, tu sais, « nous savons », là, c'est vraiment une expression d'assurance qui se retrouve dans 1 Jean 5.13. Hein? C'est quoi donc? 1 Jean 5.13. « Nous savons ». Ça commence par « nous savons ». Attends, on va le lire. « Afin que vous sachiez », c'est ça. Donc, c'est encore là, la certitude. « Je vous ai écrit ces choses ». Ben oui, c'est ça, évidemment. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, c'est une expression qui nous parle de l'assurance chrétienne. Et donc, tout cela pour dire que même face aux plus grandes passions, à la plus grande véhémence qu'on peut avoir, l'opposition qu'on peut avoir, le monde, si on n'est pas populaire, s'il nous rejette, même les gens les plus proches, parce qu'il dit les gens vont avoir pour ennemis les gens de leur propre maison, OK? Même si c'est le cas, on peut avoir une grande assurance devant Dieu et devant les hommes, puis persévérer parce que nous savons en qui nous avons cru. Je sais en qui j'ai cru, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Et qu'on sait qu'il peut nous garder, n'est-ce pas? Il dit qu'il a la puissance de garder mon dépôt. 2 Timothée 1.12. Et donc, cette assurance spirituelle ferme nous permet de nous engager dans le chemin étroit puis d'y rester. Et donc, c'est tellement important parce que plus l'opposition est forte, plus on a besoin d'avoir cette assurance, de savoir en qui nous avons cru. Ça mène à la troisième, au troisième témoignage du caractère apostolique dans les versets 37 à 38 de retour dans Matthieu 10. La voie, et là c'est V-O-I-E, ou le chemin, mais j'ai tout pris des mots avec V. Okay? Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et demain, ici, quand on parle de la voie étroite, le chemin resserré. Ici, c'est l'un des pas mal nombreux textes qu'on voit dans les évangiles où Jésus semble rendre difficile le fait de le suivre. Vous avez déjà remarqué ça? Hein? Jésus, des fois, il parle aux gens, puis on parle de ça tantôt avec les Gosselins. Dans Jean 6, les gens le suivaient pour le pain parce qu'il y avait la multiplication des pains, puis il sort vite, puis il dit, « Vous me suivez juste pour du pain? » Qui périt ici-bas, puis là, tout son discours sur le pain, « Je suis le pain venu du ciel », puis là, ils sont scandalisés, puis il y en a beaucoup qui arrêtent de le suivre. Ça, c'est un des passages où est-ce que Jésus dit, « Me suivre, il y a un prix à payer. » OK? Jésus n'essayait pas d'être populaire puis d'attirer les gens. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était-tu en train de décourager les gens d'avoir la foi puis de croire? Non, Jésus voulait mettre face à un fait. Non seulement que c'est difficile de le suivre, c'est impossible. Savez-vous qu'un disciple de Jésus-Christ qui comprend c'est quoi suivre Jésus-Christ, c'est quoi la voie étroite, ça va tout contre la nature humaine. On a un instinct de préservation. Jésus dit qu'on doit être prêt à mourir, à tout laisser. On veut que tout le monde nous aime. Puis Jésus vient de dire ici, tout le monde va t'haïr à cause de moi. C'est-à-dire, ça va vraiment, c'est pas dans la nature humaine. C'est pas dans comment on est fait humainement avec la chute, là. OK? Non seulement il veut dire que c'est difficile de suivre, il veut dire que c'est impossible. Et voici c'est quoi le point, OK? Voici pourquoi il dit ça. Il veut souligner que si quelqu'un le suit sur la voie étroite, c'est avec la foi qui sauve, OK? C'est quelque chose de surnaturel, de contre-nature, comme j'ai dit, et ça, c'est la marque distinctive de la chrétienté biblique, de suivre Jésus-Christ. C'est pas naturel, c'est pas normal. C'est pas de ce monde. C'est saint. C'est à part. C'est-à-dire que un disciple de Jésus-Christ, OK, là, il y a un point important. Vous savez, il y a quelque chose de pas biblique que beaucoup trop d'églises essayent de faire, c'est essayer de s'adapter à la nature humaine. Vous savez que Dieu fait jamais ça. Il se donne jamais ce trouble-là. Pourquoi? Il transforme la nature humaine. Et nous, en incrédule, on pense qu'il faut s'adapter à la nature humaine pour qu'il nous aime puis qu'il nous aide. Non! Prêche Christ tel qu'il est, puis Dieu va prendre ça pour transformer. C'est impossible de suivre Jésus-Christ humainement. Il faut qu'on soit transformé. Il faut que notre cœur de pierre soit chargé en cœur de chair. Ça prend une transformation profonde de tous nos désirs. Pour ça que Jésus n'a pas perdu son temps à essayer de s'adapter à la nature humaine. Au contraire! Ça montre le besoin d'une transformation radicale. C'est pour ça que, je voulais dire ça à M. Gosselin après-midi quand on parlait, mais pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu l'évangile, The American Gospel, l'évangile américain. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire. C'est quand même assez long, c'est à peu près 2 heures, mais ça vaut la peine de l'écouter. Il y a des gens là-dedans, tu sais, qu'on connaît, là, puis tu sais, qu'on respecte tout ça, puis... Quand on comprend c'est quoi suivre Jésus-Christ, on voit que l'évangile américain, c'est une abomination. Ça va contre la mission et le caractère d'un disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'évangile américain, l'idée, c'est justement, on va essayer de rendre l'évangile, l'Église palpable. On va essayer de le rendre agréable. On va essayer de pas que les gens se sentent confrontés. Alors que l'évangile même, c'est la confrontation d'un Dieu saint avec un pécheur. un pécheur qui est condamné, qui est sous la colère de Dieu à cause de son péché, puis qui a besoin d'un sauveur. Si t'enlèves ça, t'as plus d'évangile. C'est pas l'évangile américain, c'est de la business américaine, mais c'est pas l'évangile. On n'a rien à faire avec ça. La voie pour suivre Dieu, elle est étroite. Puis Jésus, il vous parle de voie, il l'a dit, hein? C'est la conclusion de son discours, son sermon sur la montagne, que la porte est petite, le chemin est resserré. Et donc, hey, faut pas qu'on s'aventure à dénaturer l'essence même du christianisme. Le christianisme, c'est quelque chose d'impossible. La voie, là, est étroite, puis je veux dire, personne ne la prend par soi-même, c'est pas dans notre nature. Il faut que le christianisme reste impossible, parce que c'est comme ça qu'il va rester surnaturel. Si ça devient quelque chose de normal, comme une religion, ben ça va juste donner une religion, mais t'as perdu l'essence même. Comprenez-vous? On ne doit pas dépouiller l'évangile, la vie chrétienne, du surnaturel, du divin. Parce que sinon, tu as tout perdu. Il n'y a plus d'évangile. Que Dieu nous préserve de tomber dans ce piège de l'accommodement raisonnable. Savez-vous, pendant, ça fait un petit bout de temps maintenant, hein, il y a eu ça, les accommodements raisonnables. Pas qu'on est méchant et qu'on chante des bêtises, mais on n'a rien à accommoder. Puis le monde trouve peut-être pas ça raisonnable, mais c'est pas grave. On a un message du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs, puis il n'y a pas de négociation avec lui. Il y a de salut en aucun autre. C'est le seul qui sauve, puis il n'y a pas d'autre moyen. Il y a un ciel, puis un enfer, puis c'est les deux seules destinations pour chaque humain qui est sur la terre. C'est de même, puis c'est de même. C'est pas nous qui décident. Ça divise. C'est pas populaire. Ça va créer de la véhémence. Mais c'est la voie sur laquelle on est engagé. Ah, mais quand on a ça, quand on marche dans cette voie, on marche dans le surnaturel, on marche dans l'inexplicable, on marche dans « c'est pas Christ qui vit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'est merveilleux. OK, c'est pourquoi on se compromettrait quand on a le surnaturel qui nous est promis et pourvu par Dieu. Ça amène au quatrième témoignage et dernier. Dans les versets 40 et 42, la volonté du caractère apostolique. Ça dit, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Avez-vous remarqué un mot qui revient énormément dans les versets 40 et 41? Recevoir. Puis au verset 42, donner. Les deux parlent un peu de la même affaire. Quand on est un disciple de Jésus-Christ, quand on est représentant de Jésus-Christ, le témoignage qu'on a, c'est qu'on ne veut pas faire notre volonté. On veut faire celle de celui qui nous a envoyés. C'est pour ça qu'on reçoit d'une façon. C'est pour ça qu'on reçoit en qualité de prophète. C'est pour ça aussi qu'on donne. On donne parce qu'on a reçu. L'idée ici, c'est de faire du bien. Soit en recevant quelqu'un, OK? Ici, c'est la question de l'hospitalité et tout ça. Ou de donner ici un verre d'eau, faire du bien. OK? Faire du bien parce qu'on a reçu tout le bien qu'on peut recevoir par l'Évangile. On a reçu Dieu lui-même. On a reçu le pardon de nos péchés. On a reçu la vie qui satisfait, ayant reçu parfaitement, maintenant, c'est quoi notre vie, notre volonté, ce qu'on veut juste ordonner. C'est ça ici l'idée. OK? C'est ça la volonté d'un témoin de Jésus-Christ. OK? Dieu nous a transformés dans nos intelligences, on ne pense plus de la même manière. Maintenant, ce n'est plus nous le centre de l'univers. On ne veut pas juste se plaire à nous-mêmes, maintenant on veut plaire à celui qui nous a envoyés. Donc, à cause qu'on a une nouvelle intelligence transformée, on a une nouvelle volonté à cause de ça. OK? Puis en plus, c'est Dieu, avec son esprit, qui produit en nous le vouloir et le faire. Je peux vous amener une illustration vraiment puissante de ça. Puis je me trouve vraiment tannant, mais je ne suis pas un radoteux parce que vous ne la connaissez pas l'histoire, sauf Camille, parce qu'elle a lu le livre, là, mais Esther Ann Kim. Je sais, je suis donc tannant, mais sérieux. Il y a juste quelque chose qui est fort dans ce livre-là qui m'a vraiment marqué. Sur la volonté d'un enfant de Dieu.
Cette madame-là, je vous le rappelle, très frêle, qui s'est tenue pour Jésus-Christ, ok, où est-ce qu'elle avait juste, vous l'avez déjà dit, elle avait juste à faire ça comme ça devant une espèce de petite. Un shrine, comment on dit? Une espèce de petite bebelle d'idole, ok, c'était des idoles. Puis là, il fallait juste qu'elle fasse ça, puis après, s'en allait chez eux, puis la vie continuait. Mais elle voulait pas faire ça parce que son allégeance était avec Dieu, ok? D'accord, à cause de ça, elle est allée en prison, puis là, la prison là-bas, avec ce que je lis, là, puis ce que je vois à Donnacona, il n'y a rien à voir. Il faisait frais. Ok, les deux choses qui les faisaient les plus souffrir, c'était le froid constant. C'est pas chaud les hivers en Corée, là, ok? Puis la faim. Ok? Savez-vous que des fois, juste pour remplir, il y a une affaire qui m'a donné une espèce de boîte, là. Puis là, il y avait, là-dedans, il y avait des éléments nutritifs. C'était du millet, puis mais souvent, c'était à moitié pourri. Puis ils mettaient du sable. Pour que ça soit. Là, tu peux pas croquer du sable. Fait que tu prends ça, boum, t'avales ça directement. Ça devait pas être. En tout cas. Mais c'est pas ça que je veux vous parler ce soir. C'est que c'était des conditions extrêmement difficiles. Puis il y a des gens qui arrivaient là, puis qui. Il y avait vraiment de la misère. Parce que, tu sais, il y en a qui étaient là pour l'évangile, quelques-unes. Bon, elle, c'est dans l'aile des femmes. Là. Il y avait des hommes aussi, mais nous, l'histoire qu'on a, on l'a dans l'aile des femmes, parce que c'est son histoire, puis c'est ce qu'elle raconte quand elle est là. Puis, mais il y en a qui est là, il y en a, à un moment donné, c'était un meurtre, elle avait tué son mari, puis tout ça. Puis, en tout cas, puis il y en a là-dedans, probablement qu'elle était possédée d'un démon, mais en tout cas. Puis, il y a des gens. Ça, c'est assez incroyable. Elle était dans sa cellule, puis elle attendait qu'il y en ait une arrivée. Une, il l'appelait la. Pas la folle, comment. La maniaque. OK? Ah, elle criait, puis tout ça, puis elle sentait mauvais. Je veux dire, son hygiène personnelle, tu sais, même, tu sais, ses urines et tout. Je veux dire, elle n'allait pas aux toilettes, c'est comme dit. Fait que elle sentait mauvais. Mais croyez-le ou non, Madame Kim a demandé à la garde, elle a dit, pouvez-vous la faire venir ici? Mais au point que quand elle est rentrée dans la cellule, puis c'est une petite cellule, là, les autres femmes se bouchaient le nez, puis tout ça, puis là. Puis l'autre était, tu vois, vraiment, il l'appelait la maniaque parce que, tu sais, elle était pas juste pas toute là, tu sais, je veux dire, elle criait, puis tu sais, c'était vraiment.
Elle avait tué son mari, je pense.
Elle avait tué son mari, puis c'est elle qui avait tué son mari, oui, elle avait tué son mari. Là aussi, bon, il y en a qui avait perdu son enfant, puis tout, mais bon. Puis. Finalement, ce qui arrive, Esther Ann Kim, vous voyez comment qu'elle pense, transformée par l'intelligence. Elle dit, Christ m'a aimé quand j'étais comme ça dans mon péché. Dépourvu, désemparé, puis Christ m'a aimé. Fait qu'elle va vers elle, elle apprend comme ça, puis là, elle était gelée comme une bonne. Fait qu'elle fait juste prendre ses pieds, qui ne sentaient pas bon, puis elle les met sur son ventre de même pour la réchauffer. Puis bon, finalement, la fille, elle tremblait, puis elle était toute. Finalement, là, on avance une couple de jours, puis la fille, elle reprend son bon sens. Finalement, là, avec l'amour de Christ de même, puis de ne pas vouloir faire. On parle de quelque chose qui va contre la volonté, là. Je veux dire, c'est complètement contre. Il y a des fois, il y avait une toilette, puis les nouvelles, ils couchaient proche de la toilette, puis vous dites que la toilette, c'était direct dans la cellule, puis. Mais des fois, elle prenait leur place, elle leur donnait, elle sautait, elle jeûnait. Tu sais, quand tu n'as rien à manger. Des fois, elle sautait des repas pour le donner à cette personne. Tu sais, il y en a eu plusieurs, c'était madame-là. Puis là, elle a gagné beaucoup à Christ de même. Elle a atteint leur cœur avec cette attitude de ne pas faire sa volonté, puis de ne pas se compter. Puis c'est parce qu'elle considérait Christ, elle voyait Christ, elle dit, Christ a été comme ça avec moi. Comment je pourrais être autrement? Wow! Ça, pour moi, c'est toute une illustration de recevoir quelqu'un, de faire du bien en faisant pas ta volonté, mais celle de Dieu. Puis, elle était une influence auprès de ces femmes-là, auprès de celles dans sa cellule, dans toute la prison. Elle avait une réputation. Au point qu'à un moment donné, il y avait des fausses accusations, puis les gens disent, non, ça se peut pas qu'elle ait fait ça, puis elle l'avait pas fait, mais c'est une fausse accusation, puis ils l'ont pas cru. Non, elle n'aurait pas fait une affaire de même. Puis elle a été éclairée des fausses accusations. Parce qu'elle a donné sa version, puis ils ont cru, ouais, c'est vrai ce que tu as fait, puis tout ça. Puis. Je veux juste conclure avec ça ce soir, cette pensée. Parce que dans le fond, c'est fort, tu sais. On parle d'être un témoin de Jésus-Christ.
On parle d'un prix à payer, puis de, tu sais, quelque chose qui va contre notre volonté, puis ça, mais regardez, regardez la récompense. Si vous lisez un livre de même, puis on voit, cette madame-là, c'est de victoire en victoire. C'était difficile, tu sais, mais elle a gagné des gens au Seigneur. Finalement, Dieu, il a permis qu'elle reste en vie, puis là, je prêche pas l'évangile de la prospérité, là, mais tu sais, ça a été bien mieux après, là, pareil. Là. Dieu, elle aurait pu mourir, tu sais, mais tu sais, même une fois, imaginez-vous une fois qu'elle sort de prison, les Japonais s'en vont, les Russes arrivent, les communistes, puis là, tu sais, Corée du Nord, Corée du Sud, ils ont réussi à s'enfuir, puis ils ont réussi à passer le 38e parallèle, puis trouver la liberté, puis il a fallu, elle s'est mariée, elle est allée aux États-Unis, puis là, je dis, ça finit bien, là. Pas si on a eu beaucoup d'enfants, là. Je voulais la regarder sur Internet si elle a eu des enfants, puis ça, mais tu sais, elle s'est mariée, puis tout ça, mais voici avec quoi je veux terminer ce soir. Avec le texte qu'on a lu. Je vais le mettre en parallèle parce qu'avec avec le texte qu'on a lu, puis aussi avec l'exemple de Mme Kim, je pense tout le temps que c'est son prénom, c'est son nom de famille. Venez avec moi dans 1 Pierre au chapitre 2. Et elle est une bonne illustration de ce qu'on va lire maintenant. Je pense que c'est une bonne pensée sur laquelle on peut terminer ensemble ce soir. Pierre. J'ai étudié chapitre 2. Ouais. Ben, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire chapitre 1. En fait, j'avais écrit chapitre 2 ici. C'est mon erreur. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 22. Oh, on pourrait lire avant, là, ça parle de qu'on n'a pas été racheté par des choses périssables, mais par le sang précieux de l'agneau. Mais regardez au verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Donc, c'est un passage qui nous parle de notre salut en Jésus-Christ, OK? OK. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour, dans le but, pour avoir un amour fraternel sincère. » Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et quoi ce texte-là nous rappelle? Si on a été sauvé, régénéré par la parole vivante de Dieu, c'est pour aimer. Pour que l'amour de Christ, qui est Dieu, l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils et qui maintenant est au ciel, mais on est son corps. On a été sauvé pour que nous, en tant que son corps, on proclame, on laisse l'amour de Christ comme ça être exprimé à travers notre instrumentalité humaine. Et je pense que notre madame, que je viens de donner l'exemple, en est toute qu'un exemple. Où est-ce que elle était prête, dans une grande humilité, dans une foi ferme, à payer le prix pour aimer les autres. Et c'est quoi l'amour? C'est-à-dire on a été sauvés, on a été régénérés pour l'amour, pour aimer. Et c'est quoi? C'est accepter de payer le prix, accepter de souffrir, d'être humilié pour le bien des autres. On a une version humaine avec l'exemple que je vous ai donné, mais évidemment l'exemple suprême c'est Christ, qui a tout pris notre péché, qui a tout pris notre honte, qui a tout pris la misère humaine puis la méchanceté sur lui afin de nous donner la vie, afin de nous donner... C'est ça l'amour. C'est d'accepter d'être maltraité, d'accepter la honte, d'accepter le mauvais traitement pour aider l'autre, pour le bâtir, pour le construire. C'est pour ça qu'on a été sauvés. Il n'y a pas d'autre raison. C'est parce que Dieu veut faire ça dans nos vies. C'est pour ça qu'il nous a révélé sa vérité, qu'il nous a révélé son Fils. Et on est appelé à suivre ses traces. Comme ça dit justement aussi dans 1 Pierre. Donc voilà ce que je veux donner comme appel à la lumière de tout ça ce soir. On a parlé du caractère apostolique. On a une mission, mais cette mission ne s'accomplit pas n'importe comment. Ça s'accomplit avec le caractère qui va avec. Et ce caractère-là, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime par la foi. Les deux vont ensemble. Donc, jusque en terminant, alors qu'on a l'occasion de prier, qu'on va faire juste exprimer à Dieu, aller à lui en disant, Dieu, toi tu veux et tu peux faire ces choses, tu es capable, mais moi j'en suis impossible, c'est impossible pour moi. Mais Dieu, voudrais-tu faire ces choses dans ma vie pour ta gloire? Viens à toi parce que mon désir, c'est que tu te fasses connaître dans ma vie. Dans toute ma faiblesse, que tu fasses connaître ta puissance. Que, malgré mon égoïsme, que tu fasses connaître ton amour, ta vérité au monde dans lequel on est. On va prier. Seigneur, merci qu'on a ta parole qui nous met face à Jésus-Christ. Qui est notre tout en tous, qui est la provision parfaite pour tous nos besoins. Ah, mais tu mets aussi, avec un texte comme ce soir, face à l'impossibilité de vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. On n'a pas en nous ces choses. Elles sont surnaturelles, elles viennent d'en haut. Donc, Seigneur, on invoque ton nom. On veut vivre la vraie vie chrétienne. On ne veut pas essayer de l'adapter à notre nature humaine. Mais Seigneur, on veut le produit original, le vrai. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on vient à toi. Merci que tu promets que ceux qui viennent à toi, tu ne vas pas les mettre dehors. Merci que tu promets que tu rémunères ceux qui te cherchent par la foi. Merci Seigneur qu'on peut avoir cette assurance, savoir que tu es avec ceux qui t'invoquent d'un cœur pur. On vient à toi, Seigneur, dans un grand besoin, mais aussi avec l'assurance que tu secours tes enfants qui crient à toi. C'est ce qu'on veut t'exprimer ce soir. Sois glorifié dans nos vies, avec la semaine que tu places devant nous. On ne sait pas ce qui nous attend, mais toi, tu le sais. Et on vient juste se réfugier auprès de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.